Alors maintenant, oui, le soleil monte, les points d'ombre sont de plus en plus difficiles à trouver, ils se rétrécissent de plus en plus. Remarquez, quand il y a un grand groupe, c'est pratique parce que plus moins il y a d'ombre, plus le groupe se tasse, et puis moins tu as besoin de te servir du bigophone pour. Bon, alors on va marcher là-bas vers la montagne, toutes les couleurs illuminées par le soleil du matin, encore à l'est, là, tous les contrastes de la montagne de là sont admirablement mis en valeur. Et puis alors, quand on aura un petit peu plus chaud et un petit peu plus soif, eh bien on va parler de l'eau qui sort du rocher. Alors on continue notre marche vers la Sainte Montagne, il fait un peu plus chaud, on a un peu plus soif, on a tout ce qu'il faut pour lire le chapitre qui vient à la suite, le chapitre 17. Toute la communauté des Israélites partit du désert de Sin pour les étapes suivantes, sur l'ordre de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, c'est sur la bouche de Dieu, hein. Ça on va voir ça, Alpi Adonai, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est l'expression Alpi Adonai, sur la bouche de Dieu, sur l'ordre de Dieu. Et ils campèrent à Rephidim, où il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Celui-ci s'en prit à Moïse, il dit « Donne-nous de l'eau que nous buvions ». Moïse leur dit « Pourquoi vous en prenez-vous à moi? Pourquoi mettez-vous Dieu à l'épreuve ?» Le peuple y souffrit de la soif. Le peuple murmura contre Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Est-ce pour me faire mourir de soif? Moi, mes enfants et mes bêtes ?» Vous sentez au fur et à mesure que l'insécurité grandit, alors on dirait que l'égocentrisme se referme, l'être se recroqueville sur lui-même. À moins que ce soit des âmes exceptionnelles, c'est en effet ce qui se produit. Pendant la guerre, on a vu des gens de haute stature, comme ça, une fois dans le fourgon qui les emmenait vers la captivité, ils se recroquevillaient sur eux-mêmes. On a vu ça chez certains personnages. Et à moins d'avoir une âme exceptionnelle, alors ici, moi, c'est pas une faute de texte. Est-ce pour me faire mourir de moi, moi, mes enfants et mes bêtes? Moïse cria vers Dieu en disant, qu'est-ce que je vais faire pour ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. Et c'est pas les cailloux qui manquent, comme par ici. Dieu dit à Moïse, passe en tête du peuple et prends avec toi quelques anciens d'Israël. Prends en main ton bâton, le fleuve, le Nil, et va. Voici, je vais me tenir devant toi sur le rocher, en Horev. Horev, ça veut dire ultra sec. Faire jaillir de l'eau dans ce désert ultra sec. Tu frapperas le rocher, l'eau en sortira et le peuple boira. C'est ce que fit Moïse aux yeux des anciens d'Israël. Et il donna à ce lieu le nom, vous voyez, le nom au service de la mémoire, de Massa et Meriva. On le traduit habituellement en français maintenant, par tentation et contestation. On sent qu'on ferait mieux de laisser le mot et puis d'expliquer. Vous voyez, Massa et Meriva. Et alors c'est le psaume invitatoire qu'on chante tous les matins, normalement. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, ne soyez pas comme à Massa et à Meriva. Massa, ça veut dire tentation, et Meriva, rive, c'est la contestation. Parce que les Israélites cherchèrent querelle, rive, et parce qu'ils mirent Dieu à l'épreuve, Panisayon, Massa, Massa et Meriva, en disant, Dieu est-il au milieu de nous ou non? Alors ici, voyez-vous, vous rappelez la distinction qu'on a faite hier entre les doutes et les problèmes. Alors ici, c'est plus des problèmes, c'est un véritable doute. Dieu est-il là ou pas? On se pose des problèmes justement quand on a la certitude que Dieu est là. Mais si, à ce moment-là, est-ce que Dieu est là ou pas? Alors à ce moment-là, c'est un doute, c'est plus un problème. Et mille problèmes ne font pas un doute. Alors, à propos de cette histoire de l'eau, tenez, c'est très curieux. Si vous, ça se trouve, avant l'arrivée à la montagne, mais vous avez un récit semblable qui se trouve après la montagne, et c'est pas le même endroit, et c'est le même nom de lieu. Vous trouvez ça au chapitre 20 du livre des Nombres. Les Israélites arrivèrent au désert de Tsin, celui où on a campé, à la limite de Canaan, là-bas, et s'établit à Kadesh. Il n'y avait pas d'eau pour la communauté. Alors le peuple s'en prend à Moïse, comme d'habitude. Pourquoi n'avons-nous pas péri là-bas en Égypte? Pourquoi nous as-tu conduit dans ce sinistre lieu? Il n'y a pas de figuier, pas de vigne, il n'y a pas de grenadier, et même pas d'eau à boire. Alors Dieu dit à Moïse, prends le rameau, rassemble la communauté, toi et ton frère Aaron, et dites à ce rocher qu'il donne ses eaux. Tu feras jaillir pour eux de l'eau de ce rocher et tu feras boire la communauté et son bétail. Moïse prit le rameau de devant Dieu, comme il lui avait commandé. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher, puis il leur dit, écoutez donc, rebelles, ferons-nous jaillir pour nous de l'eau de ce rocher? Moïse leva la main et avec le rameau frappa le rocher par deux fois et l'eau jaillit en abondance. Et on dit que Moïse et Aaron n'entrent pas en terre promise parce qu'ils ont manqué de foi. Dieu leur a dit de parler au rocher et il frappe deux fois. Enfin, je ne vais pas insister là-dessus, mais simplement sur le fait que ce rocher se trouve avant, ce rocher se trouve après, et la localisation, c'est le même nom, Meriva, qui revient. Mais ce n'est pas tout. Dans une vieille tradition juive, qui est reprise par saint Paul dans l'épître aux Corinthiens, voilà qu'on voit le rocher qui accompagne les Hébreux tout au long de leurs étapes. D'abord, saint Paul, il parle à ses païens de Corinthiens, mais il leur dit, je ne veux pas que vous ignoriez, frère, nos pères. Vous voyez, ces païens, ils disent, Abraham, Isaac, Jacob et l'Exode, et tout ça, nos pères, nos ancêtres. C'est notre histoire. Par le Christ, c'est devenu nôtre, tout cela. Nos racines sont là-dedans. Nos pères ont tous été sous la nuée. Tous ont passé à travers la mer. Tous ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Tous ont mangé le même aliment spirituel. Et tous ont bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher, c'était le Christ. Il fait certainement allusion à une tradition juive, là, du rocher qui accompagne les Hébreux. Et voyez-vous, le rocher, de par sa signification, là, il a l'air de s'élever. Et puis, comme toutes les réalités bibliques, il arrive à Jérusalem. À Jérusalem, le lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom. Et vous connaissez tous la vision extraordinaire d'Ézéchiel, qui voit du rocher du temple sortir une eau tellement abondante qu'elle fait pousser des arbres dans le désert. On a vu ça le premier jour, là, la vision de la mer morte à travers le désert, là, à partir de Jérusalem, du palais de l'ONU. Et puis cette eau est tellement abondante qu'elle revitalise la mer morte. Je garde la lecture de ce texte pour le moment où nous passons là-bas, au point le plus profond du globe. Dans l'Évangile, alors il faut retrouver cette sensibilité à l'harmonie des images, cette iconographie. Le Christ est le temple, au plein sens du mot. Il parle du temple de son corps et du temple du Christ en croix. Saint Jean qui est au sommet de la pensée néo-testamentaire et là, au temps de l'accomplissement, il est là, les autres se sont enfuis, il contemple, il voit que le soldat transperce le côté du Christ, il voit une source qui jaillit du côté ouvert du Christ, du sang et de l'eau. Et il y a un midrash, là, demandez à ceux qui travaillent là, à Ratisbonne, le père Remaud ou d'autres, quand Moïse frappe le rocher donne de l'eau et du sang, parce que Dieu a souffre en quelque sorte là, du manque de foi de son peuple. Et alors, cette eau, plus encore que le fleuve dont parlait Ézéchiel, qui sort du véritable sens, au plein sens du mot, comme le chantait la liturgie, « Sanguis unda profluit, terra pontus astra mundus colaventur fluminé ». Du sang et de l'eau sont sortis du côté du Christ en croix. Un fleuve et la terre, le cosmos tout entier, la mer, sont purifiés. C'est ça qu'on chantait dans la liturgie du Vendredi Saint. Vous sentez cette extraordinaire harmonie des images. C'est curieux de voir comment certains livres scientifiques retrouvent ça, de par le jeu même des méthodes historico-critiques les plus rigoureuses. Il y a une certaine Annie Jaubert qui a commenté Saint Jean et qui arrive à cela. Mais quand on vit dans la familiarité de ces textes, avec ces spontanéités qu'on retrouve grâce justement à cette existence du peuple juif qui permet de puiser la sève à la racine, ça redevient tout spontané. Ces perceptions-là qui traverse toute la Bible. Et une fois de plus, vous voyez, c'est la signification qui emporte le rocher, qui le promène, qui l'amène à Jérusalem où tout s'accomplit. Et puis du rocher, là, jaillit une eau, et pour nous elle a déjà jailli. Ce sont les sacrements qui maintenant rendent présent partout à travers le temps et l'espace ce qui s'est passé une fois pour toutes lorsque le voile s'est déchiré et que le Christ est mort sur la croix et qui, à travers le monde, nous permet de nous abreuver à cette source.
Vidi aquam egredientem de templo, allatere dextro, alleluia. Et omnes, ad quos pervenit aqua ista, salvi facti sunt, et dicent, alleluia, alleluia. J'ai vu l'eau sortant du temple, du côté droit, alleluia. Et tous ceux qui parvenaient cette eau étaient sauvés et chantaient, alleluia, alleluia.
Intarissable et capable de faire beaucoup plus que de ressusciter la mer morte, capable de ressusciter le monde entier. À Pâques, en temps ordinaire, voir la grand-mère, monsieur le curé, pas circuler avec aspergespé, là, avec son goupillon. Et puis à Pâques, on remplaçait l'aspergespé par vidiaquam egredientem à la terre dextro.